Bonjour à vous et bienvenue dans une toute nouvelle saison de Jason Pédagogie Numérique, votre balado préféré. Ok, un de vos balados préférés entièrement dédié à la pédagogie numérique à travers le prisme des enjeux de notre société. Alors pour commencer ce balado, je vais remercier toute l'équipe déductive qui nous a soutenus. Enfin, on s'est soutenus mutuellement, j'en fais partie de cette équipe. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous et que vous êtes prêts à plonger, encore une fois, tête la première, dans un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a rendu aussi des bouches très sèches pendant des mois. On va encore parler d'IA et spécifiquement de la détection des usages de l'IA générative. Ah, l'IA, cette technologie numérique qui change le monde et qui nous donne bien du fil à retordre en enseignement et qui notamment soulève des questions fondamentales sur l'authenticité des sources d'information, sur les aspects éthiques des créations automatisées et sur bien sûr l'intégrité académique. Et pour en discuter, j'ai été grattée puis j'ai trouvé à la source un invité, Nabil Taïeb, CEO et cofondateur de Draft & Goal, qui est une jeune pousse montréalaise qui offre à la base aux entreprises une solution pour intégrer des IA privées au sein de leur organisation, qui propose et qui a proposé de façon totalement gratuite l'un des premiers détecteurs d'IA générative qui aujourd'hui a été utilisé plus d'un million de fois. Je fais une petite parenthèse, au moment où j'ai enregistré pendant les vacances avec Nabil, OpenAI annonçait qu'il fermait ou du moins qu'ils ne donnaient plus accès à leur outil de détection d'IA. Cela a soulevé des questions. Alors avec Nabil, qui est titulaire d'un MBA de HEC et d'un master du Southampton Institute, on a parlé d'éthique responsable de l'utilisation de l'IA. Et ce qui m'a interpellée quand on s'est parlé, c'est qu'il a vraiment été carte sur table. IA générative, détection versus révolution, faut-il vraiment s'y opposer? C'est ce qu'on va voir avec Nabil lors de cette conversation et je vous souhaite une bonne écoute.
Assez bizarre qu'on ait choisi aujourd'hui pour parler de détection d'IA parce que en fait OpenAI a shut down son détecteur.
Je suis vraiment très enchantée que tu aies accepté en fait l'invitation.
Avec
je pense
plaisir.
Que c'est effectivement vraiment important là, en tout cas dans le milieu de l'éducation puis du réseau de l'enseignement supérieur, d'échanger sur, on va dire ici, j'aime bien dire les vraies choses, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire, les choses qu'on peut pas faire, puis aussi pour certains qui ne sont pas nécessairement avisés de ce type de technologie qui arrive, de savoir ben, est-ce qu'on peut vraiment aller détecter en fait, du contenu. C'est généré par l'IA, mais avant de commencer, moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur toi, Nabil. Comment t'en es arrivé à l'IA? J'aime bien connaître un petit peu brièvement le parcours de mes invités. Dis-moi tout.
Bon, alors moi c'est une histoire qui a commencé en 2020. Donc moi je suis plus côté entrepreneur et plus côté marketing. En 2020, j'ai travaillé avec une société qui travaillait avec OpenAI. Puis j'ai découvert un peu l'IA générative, ce qui se faisait à ce moment-là. Et en fait, j'ai été super curieux à propos de ça parce que je me suis dit, mais ça va changer le monde. Donc j'ai commencé à chercher des moyens de m'éduquer sur le sujet et pas de devenir chercheur là-dedans, mais vraiment de comprendre et de voir comment ça allait être utilisé dans le futur. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré mon associé qui est un expert en IA générative. Et puis, ça fait 3 ans qu'on travaille sur toutes ces problématiques-là. J'ai appris énormément en chemin. Quelle application de l'IA générative dans le monde du travail? Comment on essaye d'avoir des outils qui soient pas juste des outils de spam, mais dire, l'IA générative, c'est hyper bien si c'est bien utilisé. Ça peut avoir plein de fonctions bénéfiques, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation ou des choses comme ça. On a monté une startup, de fil en aiguille, on a découvert des choses et nous, dans une partie de l'outil, on avait besoin d'aller détecter la qualité du texte.
Ouais.
de grammaire, de cohérence, et puis aussi si c'était potentiellement détecté comme de l'IA. Donc nous, on avait créé une fonction qui permettait de relire un texte qui avait été généré ou qui avait été modifié, et puis de détecter un certain nombre de choses pour dire, bon, bah, ce texte a une certaine qualité, et puis en plus, on va pouvoir détecter avec d'autres méthodes si c'est un texte généré par de l'IA. Et effectivement, bah, nous, on avait un détecteur, je pense, en septembre 2022.
C'est tombé au moment où, où
Ouais,
SLP
ouais.
commençait à sortir, là, à être connu en tout cas du
Bah,
public.
en fait, ChatGPT est sorti en fin novembre. Je pense que c'était soit le tout début décembre ou toute fin novembre. Donc, nous, on avait déjà le détecteur, mais en fait, nous, ce n'était pas du tout une application grand public ou quoi que ce soit. Et puis, quand ChatGPT est sorti, on a vu qu'il y avait un certain intérêt pour la détection de l'IA. Et puis, nous, on s'est dit, ah, bah, c'est marrant parce que nous, on a déjà une fonctionnalité qui fait ça. Donc, on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite app. On va juste prendre la fonctionnalité qu'on avait créée pour l'app et puis on va créer un détecteur de notre propre détecteur d'IA. Et tout en sachant, nous, on avait fait plein de benchmarks à ce moment-là, tout en sachant qu'il y avait une marge d'erreur assez conséquente, bah, assez conséquente, qui est pas négligeable, qui est non négligeable. Donc, c'était de dire, bon, bah, on va essayer de mettre ce détecteur live. Les gens vont l'utiliser. Vont le tester et vont effectivement, nous, on va récupérer du contenu pour voir si effectivement la détection se fait correctement. Et donc, on a sorti ça et puis on a été repris hyper rapidement par des médias ici et puis en France. Donc, ça nous a vraiment boosté. Aujourd'hui, le détecteur, il a été utilisé, je pense, par à peu près 1 million de personnes. On a fait, ouais. Alors, je mens, c'est pas 1 million de personnes, il a été utilisé 1 million de fois. Donc, on sait qu'il y
Ah,
a des gens, ouais.
je t'avoue que moi je l'ai utilisé, je fais peut-être
Ouais.
partie, j'ai peut-être
Ouais, non, mais
grossi
c'est,
les
c'est.
chiffres, mais je faisais des tests en même temps. Puis écoute, j'ai repris en fait un document que j'avais numérisé de ma thèse que j'ai passée il y a quand même là, il y a tellement d'années là, dans 2000. Puis j'ai été, je crois, il y avait comme 80% de détection IA. Et je me suis dit, mince, c'est à partir de là où je disais que j'ai grossi sûrement les chiffres, là, parce que j'ai fait pas mal de tests. En rebondissant sur ce que tu dis, j'ai découvert à la suite d'un article que j'ai lu, où justement, tu as été, je pense que c'est un article de la presse, il me semble. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est outils. Alors, je dis entre guillemets outils de détection de plagiat, qui commençait avec l'arrivée de l'IA générative et notamment de ChatGPT, hein, parce que c'est lui qui était vraiment mainstream, qu'on retrouvait un peu partout, qui proposait de la détection en fait de textes générés par l'IA. Et souvent, ce qui se passe dans le milieu de l'éducation, c'est que on a le plagiat, ça existe depuis la nuit des temps. Et donc les enseignants, moi étant enseignante moi-même, avons toujours tenté de détecter. Un élève te soumet un texte qui est sublime, tu dis c'est pas possible. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui soumettent des textes sublimes, d'où en fait l'idée pour beaucoup d'enseignants et cette menace, cet enjeu de se dire comment on va faire, comment on va faire en sorte de détecter du texte qui est généré par l'IA et les textes qu'écrivent nos étudiants. À la suite de ça, j'en ai parlé à un collègue du CCTT de Jacob, qui fait partie en fait du réseau. Ils ont leur bureau au Cégep de Bois-de-Boulogne, qui me disait ah, fais attention, Florence, va pas voir comme ça justement des compagnies qui proposent ce type de choses. Et justement, Nabil, tu vas m'expliquer pourquoi faut faire attention en fait avec ce type d'application qui propose, je dis pas miraculeusement, mais qui propose en fait des alternatives ou des détections de textes générés par l'IA. Et il faut faire attention parce que les enseignants se reposent dessus pour aller corriger et évaluer les textes des étudiants. Toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de ça?
Bah, effectivement, nous, c'est une question qui s'est posée hyper rapidement parce que une grosse partie des utilisateurs de notre détecteur, c'était des professeurs, des enseignants, et qui avaient envie de savoir si effectivement leurs élèves avaient triché, avaient généré leurs examens avec ou leur rapport avec avec ChatGPT. Et donc très très rapidement, on a eu des gens qui nous ont contactés, qui nous ont dit oui, on voudrait, parce que nous on a mis une limite à 10 utilisations par jour. On s'est dit que si on mettait une limite, un prof pourrait pas aller tester toute sa classe, donc il pourrait pas aller tester utiliser l'outil d'une manière complète. Donc on a eu des gens qui nous ont contactés, voilà, on veut avoir l'outil en détection en utilisation complète, j'en ai besoin dans mon travail d'éducation. Et en fait, nous on s'est rendu compte, on a continué à benchmarker, à regarder les résultats, les faux positifs, les textes qui ont été générés avec de l'IA ou pas. Et en fait, il y a une marge d'erreur qui est assez conséquente.
Ouais.
Et nous, on l'avait déjà annoncé dès le début. Sur nos premiers datasets, on faisait à peu près 7% d'erreurs. Sur les datasets du monde réel, qui sont, on va dire, entre guillemets, un peu plus sauvages, parce que c'est moins contrôlé qu'un dataset de laboratoire, on s'est rendu compte qu'on avait, on descendait dans les 80-85%. On va dire, c'est un super bon chiffre. Mais c'est pas un bon chiffre pour être utilisé en éducation.
Ouais.
C'est-à-dire que on arrive à un niveau de détection ou un niveau d'erreur où on va pénaliser arbitrairement les personnes dans une classe. Donc soit leur dire qu'ils ont écrit un texte eux-mêmes et qu'il est devenu détecté comme de l'IA, ou soit écrire un texte d'IA et qui est détecté comme un texte étant écrit par un humain, et puis on va passer entre les mailles du filet. Donc la marge d'erreur, si on prend une classe de 30 élèves, ça voudrait dire qu'on aurait quasiment à chaque fois 1, 2, 3, 4 élèves qui seraient pénalisé totalement arbitrairement. Donc nous, on s'est tout le temps refusé à le monétiser, et on s'est tout le temps refusé à aller démarcher dans ce sens-là tant qu'on n'avait pas des résultats probants. On a travaillé sur ce sujet-là, on a étudié plein de méthodologies, parce que la détection, elle se fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait pas juste avec une méthode, c'est un ensemble de méthodes.
Bon, est-ce que brièvement, de façon, on sait, de manière à vulgariser un peu, comment ça se passe concrètement, cette détection? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être brièvement m'expliquer, même si je sais que c'est assez complexe, mais de rendre un peu ça accessible? Qu'est-ce qui est fait?
Alors, on va dire, je vais donner déjà une explication sur la méthode la plus simple, qui est la méthode du classifieur. Un classifieur, c'est dire, on va donner à une IA des textes labellisés. Donc, on va lui dire, voici des textes qui ont été écrits par des humains. Et je vais en donner peut-être 100 000, 200 000 ou 1 million au modèle. Et ensuite, je vais dire, voici la même quantité de textes qui ont été écrits par une IA. Donc, sur des sujets totalement divers et variés. C'est entre autres, c'est la difficulté, c'est de créer un dataset qui soit efficace. Et tu vas tous les lire. Tu sais ce que c'est l'IA, tu sais ce que c'est l'humain. Grâce à ton réseau de neurones, tu vas essayer de déterminer, de trouver des particularités à ces deux datasets, et dire, bon, ben, si je revois un texte qui est écrit par de l'humain, parce que j'ai vu des choses, des patterns qui sont là-dedans, je vais savoir que c'est un texte humain. Donc ça, c'est la méthode du classifieur. Ça demande énormément de données. Le problème, c'est que ça doit être des données très variées. Et après, si on parle de générer du texte avec de l'IA, ça peut coûter des montants assez importants.
Mais Nabil, excuse-moi de te couper, mais pour dans l'exemple là, du classifieur que tu donnes, est-ce qu'en parallèle tu pourrais donner un exemple qui est où on utilise en fait le classifieur, cette méthodologie du classifieur dans une application ou dans un outil qu'on utilise tous les jours, où généralement c'est plein de méthodes qui sont toujours mélangées, ou cette méthode du classifieur est pour telle ou telle application? Est-ce que tu as un exemple?
Bah, le classifieur, c'est une méthodologie qui est utilisée assez souvent en IA. Je n'ai pas d'exemple comme ça en termes d'éducation, mais, ouais. Mais en général, par exemple, les IA génératives qui font des images, on va utiliser un peu, entre guillemets, une méthode de classifieur. Des données labellisées, par exemple, avec un chien et un chat, il va pouvoir faire la différence entre un chat et un chien, parce qu'il a vu tellement de variations, et il a pu déterminer certains patterns que nous, à notre échelle, on n'est pas capable de déterminer pour faire le tri entre les deux.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment une méthode IA. Il y a plein d'autres méthodes. On va regarder c'était par exemple la méthode de GPT-0, ce
Oui.
qui s'appelle la perplexité. Donc c'est on va regarder des occurrences, certaines occurrences de tokens. Les tokens, c'est une façon de diviser le texte
Oui.
en IA. Donc on va regarder certains tokens et leur probabilité d'apparition. Et on se rend compte que là, de la même manière, on va avoir une méthode qui va permettre de voir que si on a une perplexité qui est très haute, c'est sûrement de l'IA. Si elle est très basse, je me sais plus, je peux peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est l'inverse, mais ça fait partie des méthodes aussi.
OK.
L'idée, c'est quand même au final d'avoir tout un dataset de tests qui va nous dire, voilà, je t'ai donné 20 000 textes, moi je sais ce que c'est. Je sais lesquels sont de l'IA, je sais lesquels sont du contenu écrit par un humain. Maintenant, teste-les tous, donne-moi les résultats et puis on doit voir on va voir à quel point tu es précis. Et on voit que effectivement, on a plusieurs cas de figure et puis la gravité est différente. C'est-à-dire qu'on peut, si on a un humain, si on a un faux positif humain, c'est-à-dire une IA qui passe pour un humain, c'est un problème, mais on va dire c'est un peu le brigand qui passe entre les mailles du filet.
Ouais.
Par contre, si on a un humain qui est détecté comme de l'IA, c'est un problème parce que c'est quelqu'un qui fait un travail en toute légitimité et puis qui va être pénalisé. On va lui dire, t'es un robot. Donc ça, on va dire, dans notre échelle en tout cas, c'est plus inacceptable que l'inverse.
Il y a toutes les combinaisons homme-machine, c'est-à-dire l'humain pas utiliser l'IA pour renforcer telle partie de sa phrase ou quoi, et là on peut pas être à même de dire qu'on peut détecter quoi que ce soit.
Donc là, on va avoir des challenges à ce niveau-là. Même si, par exemple, sur certaines sections, on va voir quand il y a des très très grosses variations. On va se dire bon, cette section, elle a sûrement été réécrite par l'IA, cette section. Mais après, c'est vrai que même la détection a besoin d'une longueur minimum de contenu. Par exemple, bonjour, je suis. C'est impossible de pouvoir détecter si ça a été écrit par de l'IA ou par un humain parce que il y a tellement peu d'informations dans ce morceau de texte qu'on peut pas le détecter. Donc ça prend des longueurs minimum. Donc il y a vraiment plein plein de problématiques. Chaque technique qui sont utilisées vont avoir un degré de pertinence et de détection plus ou moins élevé. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même un mur technologique qui était assez élevé. On s'en est rendu compte au bout d'un certain temps en testant différentes méthodologies. Et on se rend compte que, quoi qu'il arrive, même s'il y a des cas d'usage pour lesquels on peut utiliser un détecteur parce qu'il n'y a pas de. C'est pas critique, il n'y a pas de jugement qui a été émis à partir du résultat. Nous, on l'utilise à l'intérieur de notre outil, ça nous permet de faire certaines fonctionnalités. Ça, c'est pas un problème. Par contre, de là à aller dire dans l'éducation,
Ouais, c'est il y a trop d'enjeux.
aller utiliser ça, on n'est pas rendu là. Et moi, ce que je trouve, entre guillemets, un peu dommage, et je veux pas citer de nom moi, je les considère pas comme des concurrents parce que nous, on monétise pas du tout le détecteur, pas l'intention de le faire. Donc c'est ça. Mais je sais qu'il y a un certain nombre d'applications aujourd'hui qui sont vendues comme des outils faits pour de la détection d'IA dans l'éducation. Moi, je trouve ça, on va dire, pour être léger, frivole, mais je dirais que c'est même plus grave que ça, en fait. Et moi, ce que j'inviterais vraiment les enseignants, les établissements, de faire, c'est si un jour ils doivent utiliser un outil, qu'ils aient accès à l'outil, que l'outil leur dise, je vais vous donner, je sais pas, 20 000 ou 30 000 détections gratuites. Vous allez nous donner un échantillon avec des textes humains et des textes IA. Et
Ouais.
puis, on va vous donner les résultats de ce que nous, on a détecté. Et le faire en direct sur une machine. Et là, on va pouvoir évaluer les taux de détection. Et ça, effectivement, c'est assez facile de construire un dataset assez basique pour de la détection, même avec 1000, 2000, 3000 textes. Et ça aiderait beaucoup les enseignants, les établissements à prendre une décision là-dessus. Parce que, effectivement, je trouve que c'est pas correct d'aller vendre un outil de détection. Il y a plusieurs articles qui sont sortis récemment et plusieurs recherches qui sont sorties récemment sur des comparaisons sur les détecteurs d'IA. Et ce qu'on voit aussi qui est assez drôle, c'est que la plupart des détecteurs d'IA surdétectent les humains et qu'il y a un réglage fait manuellement parce que les IA veulent s'assurer qu'elles n'ont pas de faux positifs humains. Et donc, c'est ça. Et moi, je prends avec une pincée de sel. Aujourd'hui, OpenAI a, aujourd'hui même, jour où on enregistre le podcast, OpenAI a annoncé qu'ils discontinuaient leur détecteur. Je pense que dans un premier temps, l'intention était pas forcément, entre guillemets, bienveillante, c'est-à-dire que eux, c'était plus pour éteindre le feu qui est dans les médias pour dire bon, on fait quelque chose pour détecter de l'IA.
Ils attendent pour retirer ouais. leur truc tranquillement.
Ouais, ouais. Ils ont attendu quelques mois les vacances mais leurs classifieurs, même les résultats qu'ils annonçaient sur leur site étaient un peu affligeants parce que ils donnaient un résultat de détection qui était moins précis que tirer une pièce à pile ou face. Donc là, on est dans un cas un peu limite, mais on sait que d'un point de vue technologique aujourd'hui, tous les papiers de recherche le montrent, il y a une marge technologique que peut-être certaines entreprises très, 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 très avancées arrivent à avoir un niveau de détection plus élevé que ça. Mais il n'y a pas de détection parfaite. Ça sera impossible.
Mais c'est ça que je comprends un peu en résumant ce que tu dis. En fait, tu conseilles déjà aux enseignants, puis ça, c'est important de le dire, je le surligne, mais c'est le fait de dire que, écoutez, si vous voulez vous lancer dans ce type d'outil, allez déjà demander d'avoir en fait du test gratuit sur des échantillons donnés, de manière à voir vraiment si ça fonctionne avant de se lancer, puis de payer en plus des sommes faramineuses. Donc, comme je le dis encore, la question, elle n'est pas nécessairement pour la détection, mais peut-être contourner un peu en amont dans la nature de l'évaluation même. Ce que je comprends aussi, c'est que pour qu'il y ait détection, tu sais, tu disais que c'est que, en tout cas, dans le modèle de classification, le type classifieur dont tu parlais, c'est classifieur, je parle.
Ouais, c'est un classifieur, ouais.
Tu disais que c'était alimenté quand même par de nombreuses données, d'échantillons, de textes écrits par les humains. Il y a quand même, l'être humain est une personne qui est complexe. On a autant qu'on a d'êtres humains dans ce monde, on a autant de manières d'écrire, de s'exprimer, etc. Donc, il y aura toujours une marge d'erreur, même si on nous apprend depuis des décennies à écrire d'une façon normative. Il y a toujours, en fait, des personnes qui n'écrivent pas de manière normée. Ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a, selon moi, pour avoir reçu des textes d'IA, pour un étudiant là, qui se lance et qui fait un copier-coller vraiment grossier, il y a quand même un pattern IA qui revient, qu'on revoit aussi même dans l'art aussi. Je regardais je suis un peu fan de Marvel, de tous ces trucs-là, donc sur Disney, un épisode de Nick Fury, etc. Et ça faisait fait toute une histoire parce qu'en fait, le générique de cette série est généré par l'IA. Et tout de suite, dès que tu commences à regarder, pour peu que tu connaisses ces applications de Midjourney, il y a la touche, en fait, IA générative dans la génération d'images, dans la manière dont c'est tourné. Et je pense que ça se retrouve aussi dans l'écriture, effectivement. Et c'est là où je dirais, comme tu disais, que l'outil fonctionne quand même, pas à 90%, c'est en fait dans la détection de textes copiés-collés, grossiers, où tu sens même que toi, en tant qu'être humain, c'est pour peu que ce soit ton métier d'aller évaluer des textes, ce genre de choses, tu reconnais la touche de quelque chose qui est extra-normé. Mais ce que je comprends aussi, c'est que vous soulevez, en tout cas pour votre part, l'enjeu éthique. Ce n'est pas possible pour l'éducation parce que ce serait dans cette marge de 1 ou 2, 3 élèves qu'il y aurait dans une classe d'à peu près 30, il y aurait un enjeu éthique quant à la détection de savoir si c'est, comme tu dis, un faux positif. C'est comme ça que tu dis
ça, ouais.
OK. Donc, en soi, Toi, tu conseilles, alors, parce qu'il y en a de plus en plus de ces outils-là, est-ce que à ce moment-là, quelle serait la marge de manœuvre, ou je dirais l'utilisation qui pourrait y avoir? Est-ce que ce serait une utilisation, parce que certaines institutions se sont lancées dans ce type d'application, une utilisation de première ligne? Ou est-ce que tu es à même de dire, franchement, écoutez les gars, on ne peut pas se reposer dessus, no way, en éducation? C'est quoi, toi, ton avis dessus?
C'est compliqué. Moi, je viens pas du milieu de l'éducation, donc parce que il y a différentes méthodologies dans la décision, même quand vous détectez du plagiat, ou parce que des fois le plagiat est partiel, ou des choses comme ça. Donc il y a des choix qui vont devoir être faits quant à ce qu'on fait, ce qu'on veut faire dans l'éducation avec l'IA. Moi, à partir du moment où il y a une marge d'erreur, c'est difficile. Est-ce que on peut croiser des données? Est-ce que si j'ai un cancre fini dans ma classe qui d'un seul coup se met à me générer des rédactions de 60 pages écrites sans une seule faute d'orthographe et des choses comme ça, mais ça devient difficile comme méthodologie, parce que on est tous un peu biaisés dans qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Part du côté de l'IA, est-ce qu'on part du côté de l'humain? Et puis après, par exemple, si moi je teste et ça me dit que c'est de l'IA, et ben je vais lire tout le texte en me disant, ah, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Ouais. Ah, je reconnais ça, c'est un pattern d'IA, c'est un pattern d'IA. Nous, on avait regardé un truc qui est sympathique pour détecter, c'est que, comme tu le dis, surtout les chatbots ont souvent le même pattern, et sur les mêmes consignes, ils vont avoir les mêmes des réponses qui sont très très proches, même quand on va faire des régénérations. Donc par exemple, nous on regardait, c'était dire, bon bah, est-ce que si on donne la consigne de l'exercice, ou par exemple, écris-moi une rédaction sur la bataille de Waterloo, en général, l'IA, parce que c'est un modèle probabilistique, va avoir une structure qui va se répéter, beaucoup de mal à devenir créative, si on augmente sur les modèles, quand les utilisent sans chatbot, on peut régler le niveau de créativité. Si on met trop de créativité, elle va inventer des personnages, des lieux, des choses comme ça. Sur les chatbots, la créativité a été quand même limitée pour avoir des réponses qui sont plus correctes, mais parce qu'on a limité la créativité, c'est-à-dire qu'on prend plus ou moins tout le temps le même chemin probabiliste dans la génération de texte, donc on va avoir des générations qui se ressemblent beaucoup. Donc ça, c'était un chemin qu'on avait regardé, mais après ça reste aussi juste des suspicions. Donc c'est vrai que les profs sont face à un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer d'avoir des exercices qui sont faits à la maison? Si vous êtes en salle de classe et puis vous pouvez limiter l'accès au matériel électronique ou au accès à des sites de génération, ça va être tout à fait possible. Au final, nous, on s'est rendu compte que c'était un peu comme pendant la Covid, le détecteur, c'était une façon de dire, bon, bah, est-ce qu'on peut revenir au monde d'avant? On a tous envie de ça, de revenir dans notre statu quo, tout ça. On veut pas que ça change, parce que l'IA est là pour rester et va impacter nos vies, qu'on le veuille ou non, professionnelles, personnelles. Et donc, l'éducation, quoi qu'il arrive, va devoir composer avec l'IA. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un volet de combattre l'IA? C'est possible, et puis il doit être là, il doit être excité.
Ouais, c'est ça.
Mais est-ce qu'il doit y avoir un volet de... Est-ce qu'on peut intégrer l'IA d'une manière ou d'une autre, et qui va donner de la valeur ajoutée aux élèves? Ça, c'est encore une autre question à répondre. Comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas, je viens pas du milieu de l'éducation, donc je veux pas trop me prononcer sur ce que le milieu d'éducation devrait faire. Nous, d'un point de vue d'expert dans le domaine, parce qu'on travaille avec ça en permanence, c'est vrai que il faut mettre un très 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 gros bémol, que le déploiement doit être fait. Si doit être fait, il doit y avoir chaque outil qui doit être testé, qui doit être utilisé, doit être testé, mais plus qu'extensivement sur un très grand nombre de tests. Et on doit pouvoir communiquer clairement à tous les acteurs, et je dirais même jusqu'aux élèves, leur dire, bon, bah, aujourd'hui, on va t'évaluer. Tu as un outil qui va t'évaluer et qui fait 5%, 10%, 15% d'erreurs. Donc, peut-être que tu vas être puni arbitrairement. Donc ça, le côté transparence, c'est super important. On a besoin de ça. Je pense qu'il y a plein de profs qui se sentent démunis, donc qui ont envie d'avoir une arme contre ça. Mais est-ce que la détection pure et dure va répondre à leur problématique? J'en doute, parce que nous, on le fait, on travaille dessus. Et puis après, nous, c'est pas, comme je disais, nous, dans notre application, c'est pas du tout quelque chose qui est critique. C'est quelque chose qui s'utilise en interne. Il n'y a pas de jugement qui est fait, il n'y a pas de décision qui est prise.
Oui, en fait, j'allais te poser une question, mais là, j'allais poser la question à celui qui dirige, ou du moins qui lance une jeune pousse, comme on dit au Québec, une start-up. Puisque tu dis, et je comprends tout à fait, hein, le fait de ne pas se prononcer, tu sais, l'éducation, c'est quand même un système généralement qui met un peu plus de temps, je dirais, que dans le monde, dans la société, et puis dans le privé, ça va beaucoup plus vite. Et généralement, en éducation, je dirais, on n'avance pas de manière parallèle et égale, mais malgré tout, on forme les gens qui vont alimenter justement des boîtes comme la tienne dans un futur proche. Donc, toi, actuellement, tu es dans une boîte, en fait, où je dirais le core business est quand même cette IA générative.
Absolument.
Et donc, moi, je suis amenée à former, en fait, des étudiants, des adultes en devenir qui vont aller justement alimenter ce type de boîte. Selon toi, et ma question est la suivante, même si tu ne peux pas te prononcer parce que tu n'es pas du domaine de l'éducation sur le type d'évaluation, est-ce qu'on peut, entre nous, continuer à évaluer comme on évaluait traditionnellement, avant 2020, dans le sens où actuellement, ce qu'on évaluait, c'était la capacité, par exemple, d'un étudiant à réfléchir, mais à poser ses réflexions dans un texte concret. Si aujourd'hui, il y a un outil qui me permet de pouvoir organiser et hiérarchiser mes idées et de pouvoir les transmettre, qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignant, j'enseigne donc à mon élève? Dans le sens où avant, je lui disais, écoute, pour argumenter, pour réfléchir, il faut que ce soit écrit comme ça, comme ça, comme ça, dans telle classification, telle hiérarchie. Je lui apprenais, c'était mon travail de lui apprendre, en tout cas dans le cadre de mon métier d'enseignant de français. Maintenant, l'IA, l'étudiant va aller mettre ses idées et va avoir un accompagnement qui va lui permettre de le faire rapidement. Moi, j'ai des élèves qui me disent, je ne passe pas maintenant une semaine à réfléchir sur un truc, j'ai ma réflexion. Puis tout le reste, ce qui est le plus difficile, c'est d'écrire le rapport. Donc, maintenant, en fait, l'outil me permet aux élèves d'écrire le rapport plus rapidement et d'organiser mieux leurs idées. Selon toi, est-ce qu'en soi, on pointe du doigt l'enjeu ici, ou est-ce que toi, en tant que représentant d'une start-up, tu vois pas qu'il y a un décalage aussi entre... Tu sais, la façon de penser de, on va dire, du corps professoral, même pour, il y a quand même des early adopteurs ou des gens qui veulent se maîtriser ça, ils ont compris, on va vivre avec.
Alors moi je te dirais, je vais te donner deux exemples. Je vais te donner deux exemples. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, et puis on a fait des démos là-dessus, en entreprise, où il y a des gens qui génèrent des rapports d'activités, des rapports de recherche qui peuvent faire 100, 200, 300, 400 pages. Et aujourd'hui, on nous dit, ah ben moi, j'ai tel rapport de 400 pages et je voudrais le résumer en 100 pages. En 100 pages, en 2 pages. Et puis c'est là d'un seul coup, et puis moi, je l'ai vu suffisamment pour me dire, mais dans un premier temps, pourquoi on a généré un rapport de 400 pages? Et l'un des moi de la manière où je le vois, c'est que je me dis, c'est que dans l'entreprise, la longueur, c'est pas un gage de qualité, c'est pouvoir être concis, transmettre un maximum de un maximum d'informations dans un minimum de texte, en ayant tout le ou de contenu, en ayant tout un contexte qui va autour. Donc c'est vrai que nous, moi je m'en souviens, on nous demandait de faire des rédactions de 6 pages. Moi, si quand on travaille, si je rends un rapport de 6 pages, ça sert à rien, il y a personne qui le lit, il y a trop d'informations, on n'est pas allé droit au but. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que la communication aujourd'hui est un peu différente? Est-ce qu'on a besoin de travailler sur des formats longs, sur des formats plus complexes? Ça c'est une question ouverte. Je vais peut-être pas y répondre, mais ça vaut le coup de se la poser. Moi, par contre, ce que je vois une vraie qualité dans l'IA et dans l'éducation, parce que nous, on l'utilise. Alors moi, je suis hyper curieux de nature, donc j'apprends plein de choses sur des sujets divers. Et puis après, j'apprends des choses aussi sur mon métier, que ce soit de la technologie, du. Et des fois, je vais dire, bon bah, explique-moi ce concept-là. Je vais aller voir ChatGPT ou une autre d'autres applications, style Claude ou des choses comme ça. Et je vais lui dire, bah, explique-moi ce concept-là. Et puis il va me l'expliquer. Je fais, non, mais ça, j'ai pas compris. Et ça, il va me le réexpliquer. Donc on a quand même un prof avec une patience illimitée et une disponibilité illimité. Et en plus, je peux lui dire, bon, bah, explique-moi ça comme un enfant de 4 ans. Explique comme un expert. Donc, d'un seul coup, j'ai cette capacité de pouvoir orienter ma compréhension en fonction de mes lacunes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui comprennent bien les maths, il y en a qui comprennent moins bien. Donc, on est dans une salle de classe où on va pouvoir avoir des gens qui vont pouvoir aller chercher des informations qui correspondent, qui vont combler leurs lacunes spécifiquement. Donc, dans l'apprentissage, moi, je trouve que est-ce que c'est possible de l'intégrer? J'aurais trouvé ça super bien à mon époque, parce que effectivement, les profs n'ont pas toute la disponibilité, n'ont pas toute la méthodologie pour avoir plein de façons différentes d'expliquer un même problème. Mais effectivement, ça revient à la question, est-ce que à l'école, on forme des travailleurs, est-ce qu'on forme des citoyens? Moi, j'ai toujours, tu sais, j'essaye de jamais trop me prononcer sur
Bien
des
sûr.
choses que je maîtrise moins bien. Mais en tout cas, ce que je te dirais, c'est que effectivement, l'IA est là pour rester. Les étudiants, on voit que là, je pense que c'était le premier mois où ChatGPT a perdu des utilisateurs. On sait très probablement que c'est parce qu'il y a un très grand nombre d'élèves qui sont en vacances.
Mais oui.
Et donc ça, on va dire, ça joue sur l'utilisation de ChatGPT aujourd'hui. Il faut se dire que les étudiants, les élèves vont avoir un instinct à aller utiliser ChatGPT.
Ben oui, ils veulent tous réussir. Donc.
Et puis d'un seul coup, on a quelque chose qui est. Nous, on avait tous des petites méthodes de triche ou quoi que ce soit, mais là, on a quelque chose qui est vraiment du produit fini. On va dire ce qui est un peu effrayant, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire à produire cet exposé de 4 pages versus rentrer la même phrase dans ChatGPT et avoir une réponse hyper qualitative en quelques secondes.
Oui, c'est ça.
Et personnalisé. Donc là, on sait qu'il va y avoir toujours ce combat permanent entre les élèves et leurs professeurs. Est-ce que c'est vrai que l'éducation va être amenée à changer? Quand est-ce que ça va arriver? Ça, c'est
En t'écoutant, je me dis que ben, c'est que le début. Je me dis que de toute façon, l'éducation poursuivie n'a pas d'autre choix que de se réinventer. Mais tu sais, d'un côté aussi, tu sais, il y a des choses qui viennent toucher moi, mon ego, en tout cas d'enseignante, dans le sens où on a toujours vu, tu sais, moi étant petite, j'ai toujours vu l'enseignant, je le regardais de haut, porteur de connaissances. On sait déjà depuis que l'enseignant n'est pas porteur de connaissances, mais facilite l'accès de différentes compétences. Mais tu sais, c'est toujours difficile pour un enseignant aujourd'hui, surtout pour un enseignant qui a fait toute sa carrière, qui est plus sur le départ qu'au début, qu'on lui enlève tout ça. C'est toujours ce truc, ce côté de j'enseigne, je véhicule le savoir. Puis j'ai une application, là, ChatGPT, Claude Bard, appelée de tous les noms, là, qui vient me prendre ce pourquoi j'ai tant travaillé et ce pourquoi j'ai tant cru. C'est difficile de changer les mentalités, mais c'est sûr que, tu sais, la question, est-ce que l'éducation, elle est faite pour les citoyens, pour les travailleurs, tu sais, le truc, il est là, c'est le positionnement de l'éducation sur on prépare qui, pourquoi, et est-ce qu'on prépare des adultes en devenir qui vont plus être à même de pouvoir, avec la pensée critique, utiliser toutes les applications qu'ils veulent, mettre une plus-value de leur intelligence humaine ou de faire justement la différence en s'aidant de l'outil. C'est la question, c'est toutes les questions et les choses qui viennent à l'esprit en t'écoutant.
Ouais. Après, je te dirais sur une note plus positive, et je vais te parler de moi, et puis après, peut-être pour généraliser, mais mes interactions en termes d'échanges de connaissances se font à 85% avec des humains. Avec des humains. Et entre autres, on fait des sessions où on s'assoit et on dit pas d'ordinateur, on communique, on travaille là-dessus. Donc moi, ce que je te dirais, et puis bon, comme je t'ai dit, je suis hyper curieux, donc je vais m'informer sur plein d'autres choses et chercher des informations à droite, à gauche, et puis parler avec des experts sur différents thèmes et sur différents sujets. Je te dirais, c'est qu'il faut aussi avoir confiance aux élèves. Moi, je connais énormément d'élèves, de personnes. Moi, je me vois à mon âge, et puis des gens qui avaient mon âge, et puis des gens que je vois. Il y a des gens hyper jeunes qui ont des startups et qui sont encore à l'université ici dans l'incubateur où on est, qui restent hyper curieux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie de se challenger, d'écrire, de calculer, de faire des choses. Donc, je pense que il y a quand même une grosse partie de la jeunesse d'aujourd'hui sait que l'éducation a une valeur. C'est pas d'être un perroquet, c'est vraiment essayer de te construire, apprendre des nouvelles choses, te challenger. Donc moi, je verrais pas ça tout noir, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui vont avoir l'option et qui vont dire non, moi j'ai envie d'apprendre quelque chose. Donc je serais pas pessimiste sur toute la ligne. Je pense pas qu'il y a que des étudiants truandeurs et
Ben c'est ce que je voulais t'entendre dire. Ça c'est la bonne phrase et le bon côté positif pour terminer cette discussion qui arrive à sa fin. Franchement, Nabil, merci de l'opportunité. Vraiment sur une phrase, est-ce que toi tu te vois, alors est-ce que ça t'a donné envie de continuer ou de développer peut-être éventuellement quelque chose dans l'éducation, ou non, en fait toi vous développez pas du tout pour le monde de l'éducation, et vous c'est entreprise, et puis vous voulez rien entendre?
Alors en fait, je dirais oui et non. En fait, il y a tellement d'opportunités en IA aujourd'hui. L'éducation va intégrer de l'IA à un niveau hyper élevé dans les prochaines années. Donc, on aimerait faire ça. Mais en même temps, on se rend compte que on est un peu dans une nouvelle technologie, puis il faut choisir son cheval de bataille. Donc, on a commencé sur l'IA en entreprise. On continue un peu dans cette direction-là.
OK. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Nabil. Et puis,
merci, Florence.
À très bientôt.